Chapitre 19. Un autre mariage. Monsieur Sounds, le bedeau, et Madame Miff, la loueuse de chaises, sont de bonne heure à leur poste dans la belle église où Monsieur Dombey s'est marié. Un vieux gentleman indien, au teint cuivré, va épouser une jeune femme ce matin-là, et l'on attend 6 voitures pleines de monde. Madame Miff a appris que le vieux gentleman au teint cuivré pouvait paver de diamants le chemin de l'église sans s'apercevoir qu'il en eût perdu. La bénédiction nuptiale doit être magnifique, car elle sera donnée par un révérend, un doyen. Quant à la mariée, elle sera peut-être remise officiellement comme un présent inappréciable par un personnage qui vient tout exprès de chez les Horse Guards. Madame Miff est moins tolérante ce matin-là que jamais avec les pauvres gens, quoiqu'elle ait en tout temps des opinions arrêtées à leur égard et qui ne sont pas favorables à leur prétention du droit aux chaises gratis. Madame Miff n'est pas versée dans la science de l'économie politique qu'elle soupçonne de procéder des dissidents, anabaptistes, wesleyens ou quelque chose comme ça. Mais elle ne comprend pas pourquoi les gens du peuple se marient. « Le diable les enlève, » dit Madame Miff, « on leur fait la même cérémonie, les mêmes lectures et le reste qu'aux gens riches. Et au lieu de pièces d'or, on ne reçoit que des pièces de 10 sous. » Monsieur Sounds, le bedeau, est plus généreux que Madame Miff. Mais il n'est pas loueur de chaises. Il faut que cela soit, madame. Nous devons les marier. Il faut bien que nous ayons des enfants dans nos écoles et des soldats dans nos armées. Il faut les marier, madame, dit M. Sounds, dans l'intérêt de la prospérité du pays. M. Sounds est assis sur les marches, et Madame Miff et Poussette dans l'église, quand paraît un jeune couple simplement vêtu. Le vieux chapeau de Madame Miff se tourne de leur côté en faisant la moue, car la bonne dame croit deviner dans cette visite matinale un couple fugitif. « Nous ne venons pas pour nous marier, » dit le jeune homme, « nous venons seulement nous promener dans l'église. » Et comme il glisse une gracieuse offrande dans la main de Madame Miff, sa mine rechignée se détend et son vieux chapeau s'incline et craque avec sa maigre et sèche figure. Madame Miff se remet à épousseter et à battre ses coussins, car on lui a dit que le gentleman au teint cuivré avait les genoux sensibles. Mais son œil brillant, son œil de loueuse de chaises, reste fixé sur le jeune couple qui se promène dans l'église. Tousse Madame Miff, dont la toux est plus sèche que le foin de ses coussins. « Vous reviendrez nous voir un de ces 4 matins, mes petits poulets, ou je me trompe fort. » Il regarde une pierre scellée dans le mur et élevée à la mémoire d'une personne. Ils sont assez loin de Madame Miff, mais Madame Miff peut voir, du coin de l'œil, que la jeune fille s'appuie assez fort sur le bras du jeune homme et que la tête de celui-ci se penche sur elle. « Bien, bien, » dit Madame Miff, « vous pourriez faire pis, car vous êtes vraiment un joli petit couple. » La remarque de Madame Miff n'a rien de personnel. Elle parle tout bonnement au point de vue commercial. Elle n'est guère plus curieuse de couple que de cercueil. Elle est si roide, si sèche, si maigre, cette bonne vieille dame. Vraiment, elle est aussi sympathique que ses bancs et sensible comme un copeau. M. Sounds, qui a pris de l'embonpoint et qui a de l'écarlate dans son costume, a un tout autre caractère. Debout sur les marches avec Madame Miff, il dit, en voyant le jeune couple s'éloigner, « Elle a vraiment une jolie tournure, n'est-ce pas? Et aussi, je crois, une jolie figure, autant que j'en puis juger, car Florence, en s'éloignant, baissait la tête. » « Enfin, Madame Miff, » dit M. Sounds, qui s'en lèche les barbes, « c'est ce que l'on peut appeler un vrai bouton de rose. » Madame Miff fait de son vieux chapeau un signe d'assentiment de complaisance, mais, au fond, elle trouve le propos si léger de la part de cet officier de la paroisse qu'elle se dit que pour tout l'or du monde, elle ne consentirait pas à devenir la femme de M. Sounds, tout bedeau qu'il est. Et le jeune couple, qu'est-ce qu'il dit en sortant de l'église ? « Cher Walter, merci. Maintenant je puis partir heureuse. » Et quand nous serons de retour, Florence, nous viendrons revoir la tombe du pauvre enfant. Florence lève sur son bon visage ses yeux tout brillants de larmes et rapproche sa main libre de son autre petite main passée au bras du jeune homme. « Il est de bonne heure, Walter, et les rues sont encore presque désertes. Promenons-nous un peu. Mais vous allez vous fatiguer, mon amour. Oh non !» C'était bon pour la première fois que nous nous sommes promenés ensemble. Ce jour-là, j'étais bien fatigué, mais je ne le serai pas aujourd'hui. Et voilà Florence et Walter qui, le matin même de leur mariage, se promènent comme si de rien n'était, bras dessus, bras dessous. elle aussi innocente et aussi aimante, lui aussi franc, aussi plein d'espérance, seulement un peu plus fier d'elle encore qu'autrefois. Le jour de cette promenade qu'ils avaient faite, enfants tous deux, ils n'étaient pas si loin du monde qui les environnait que ce jour-là. Les petits pieds de Florence n'avaient pas suivi ce jour-là une route aussi enchantée que celle qu'elle suivait aujourd'hui. Quand on est enfant, on peut bien des fois donner sa confiance et son amour et en varier l'objet, mais le cœur de Florence, devenue femme, ne pouvait se donner qu'une fois tout entier, et devant l'abandon ou le changement, ce cœur n'aurait plus eu désormais qu'à souffrir et à mourir. Ils prirent les rues les plus paisibles et n'approchèrent pas de celle où se trouvait son ancienne demeure. C'était une matinée d'été, belle et chaude, et le soleil brillait sur eux pendant qu'ils avançaient au milieu de ce brouillard qui enveloppe la cité. Les richesses s'étalent dans les boutiques. Les bijoux, l'or, l'argent brillent aux devantures resplendissantes des orfèvres, et les hautes maisons jettent leur ombre majestueuse et protectrice sur le jeune couple qui passe. Mais ils s'en vont à travers la lumière, à travers l'ombre, comme deux amoureux, sans rien voir autour d'eux. Ils n'ambitionnent pas d'autres trésors, ils ne souhaitent pas de plus riches palais que ceux qu'ils ont trouvés l'un dans l'autre. Peu à peu, ils avancent dans des rues plus sombres, plus étroites. Là, le soleil, tantôt jaune, tantôt rougeâtre, ne se laisse apercevoir au travers du brouillard qu'au coin des rues, dans les petites places où se trouve soit un arbre, soit une des nombreuses églises dont nous avons parlé. Dans de petits espaces pavés garnis d'escaliers, dans un petit coin de jardin, dans un cimetière au milieu duquel on ne voit plus que quelques tombes ou quelques pierres tumulaires toutes noires. Pleine de confiance et d'amour, à travers les étroits passages et les rues sombres, Florence marche toujours, appuyée sur le bras de celui dont elle va devenir la femme. Son cœur bat plus vite en ce moment, car Walter vient de lui dire que leur église est proche. Ils laissent derrière eux de grands magasins devant lesquels sont arrêtés des camions avec les charretiers affairés qui barrent le passage. Mais Florence ne les voit ni ne les entend. Et bientôt tout devient calme, le jour est plus sombre, et elle tremble dans une église humide comme une cave. Le vieux petit bonhomme râpé, le sonneur de la cloche désappointé qui n'attire pas les fidèles, est assis sous le porche. Il a posé son chapeau sur les fonts baptismaux, car il est là comme chez lui. N'est-il pas en même temps suisse, sonneur et fossoyeur? Il les introduit dans une sacristie toute délabrée, garnie de panneaux bruns tout couverts de poussière. On dirait un buffet dont on a tiré les planches. Les registres mangés au verre ont un goût de tabac éventé qui fait éternuer Niper tout en larmes. Et comme elle paraît jeune, comme elle paraît belle, la mariée, dans ce lieu si délabré, si plein de poussière, sans autre parent que son époux. Il y a un acolyte, vieux et poudreux, qui tient une échoppe de journaux ouverte à tous les vents, sous une porte cochère en face, derrière un rempart de poteaux où sont suspendues ses gazettes. Il y a une autre loueuse de chaises, vieille et poudreuse, qui n'a pas d'autre occupation que de s'occuper d'elle et qui trouve que c'est déjà bien assez comme cela. Il y a un bedeau, vieux et poudreux. Ce sont ces deux derniers personnages qu'a vus M. Toots le dimanche précédent. Le bedeau, par exemple, ne se borne pas à ce genre de commerce. Il est au service d'une société de charité qui tient séance dans une salle voisine, dont les croisées sont garnies de vitraux, par où jamais l'œil d'un mortel ne s'est permis de regarder. L'autel est décoré de frises en bois et de corniches remplies de poussière. Les mêmes ornements se remarquent autour de la galerie, au-dessus de l'inscription qui relate ce qu'ont fait les présidents et les membres de la dite compagnie en l'an 1694. Puis on voit au-dessus de la chaire et du pupitre des chantres un vieil orgue poudreux qui a l'air de menacer de tomber sur la tête des officiants dans le cas où ils ne se conduiraient pas comme il faut. Enfin, on peut faire autant de provisions de poussière que l'on veut, excepté dans le cimetière où il serait difficile de s'en procurer. Le capitaine, l'oncle Sol et M. Toots sont venus. Le prêtre met son surplis dans la sacristie et l'employé se promène autour de lui, occupé à souffler la poussière dont il est couvert. Le marié et la mariée sont devant l'autel. Il n'y a pas de demoiselle d'honneur, à moins que ce ne soit Suzanne ni père, et point d'autre père que le capitaine Cattle. un homme à jambes de bois, avec une bague bleue au doigt et une pomme à la main, qu'il mord à belles dents, entre dans l'église pour voir ce qui s'y passe, mais s'apercevant que ce n'est pas amusant, il sort en boitillant et fait retentir sa jambe de bois sur les dalles. Un doux rayon de soleil ne vient pas éclairer Florence pendant qu'elle incline timidement la tête devant l'autel. L'astre du matin est caché derrière les maisons et ne brille pas là. Des pierrots perchés sur un petit arbre rabougri, en dehors de la porte, essayent un petit chant pulmonique. Un merle exposé au soleil, à la lucarne d'un teinturier, siffle de toutes ses forces pendant le service, et de temps à autre on entend le bruit sourd de l'homme à la jambe de bois qui marche clopin-clopant sur les dalles. Les amens de l'acolyte malpropre semblent, comme ceux de Macbeth, rester en chemin dans son gosier. Mais le capitaine Cuttle vient à son aide, et il y met tant de bonne volonté qu'il introduit, mal à propos, de sa propre autorité, trois amens où ils n'ont que faire, tout étonnés de se trouver là. Ils sont mariés. Ils ont signé leur nom sur un des vieux registres qui sentent le tabac. Le surplis du prêtre est replacé mollement sur son lit de poussière, et le prêtre lui-même rentre chez lui. Dans un sombre coin de la sombre église, Florence a rejoint Suzanne Nipper et pleure dans ses bras. Les yeux de M. Toots sont tout rouges. Le capitaine frotte son nez. L'oncle Sol a laissé retomber ses lunettes et s'en est allé à la porte. « Oh, Suzanne, ma chère Suzanne, si jamais il vous arrive d'être prise à témoin de l'amour que j'ai pour Walter et des raisons que j'ai pour l'aimer, faites-le par amour pour lui. Adieu, adieu. » Ils ont pensé qu'il valait mieux ne pas retourner chez le petit aspirant de marine et se séparer à l'église. Une voiture les attend près de là. Miss Nipper ne peut plus parler. Elle sanglote, étouffe et serre dans ses bras sa maîtresse. M. Toots s'avance, l'engage à se calmer et se charge de la consoler. Florence tend la main à M. Toots et, dans l'excès de son bonheur, présente son front à ses lèvres. Elle embrasse l'oncle Sol, le capitaine Cuttle, et est entraînée par son jeune époux. Mais Suzanne ne peut supporter que Florence s'en aille en emportant d'elle un souvenir de tristesse. Elle s'était promis d'être si différente de ce qu'elle a été qu'elle se le reproche amèrement. Dans l'intention de faire un dernier effort pour racheter sa faiblesse, elle quitte M. Toots et s'élance à la poursuite de la voiture pour montrer à Florence une figure souriante. Le capitaine, devinant son projet, la suit, car il croit aussi de son devoir de prendre un air gai, s'il est possible, pour leur dire adieu. L'oncle Sol et M. Toots restent en arrière tous les deux, en dehors de l'église, pour attendre les autres. La voiture est partie, mais la rue est roide, étroite et encombrée. Suzanne aperçoit le fiacre, elle n'en peut douter, arrêté à quelque distance. Le capitaine Cuttle la suit dans sa fuite, jusqu'en bas de la côte, et agite son chapeau de toile cirée à tout hasard, sans savoir si ce signal un peu général arrivera à cette voiture-là ou à une autre. Suzanne devance le capitaine et arrive au haut de la montée en même temps que la voiture. Elle regarde par la portière et voit Walter près de sa douce amie. Elle frappe des mains et s'écrie « Miss Florence, ma chérie, regardez-moi. Nous sommes tous si contents maintenant, ma chérie. Encore un dernier adieu, mon bijou, encore un. » Suzanne ne sait pas elle-même comment cela se fait, mais elle se trouve déjà à la portière. Elle embrasse sa maîtresse et lui passe ses bras autour du cou. « Nous voilà si heureux maintenant, ma chère demoiselle Florence, » dit Suzanne, en poussant un soupir qui pouvait faire douter de son bonheur. « Vous ne m'en voulez pas maintenant, n'est-ce pas ? Vous en vouloir, Suzanne ? Oh non, je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas. Ma bonne petite chérie, n'est-ce pas que vous ne m'en voudrez pas ? » s'écrie Suzanne. « Voici le capitaine aussi, votre ami le capitaine, vous savez, qui vient vous dire encore un petit adieu. » « Hurrah, délice du cœur !» crie la grosse voix du capitaine, qui paraît en proie à une vive émotion. « Hurrah, Walter, mon garçon !» Le jeune époux était à une portière, la jeune mariée à l'autre. Le capitaine était suspendu à la première, Suzanne avait empoigné solidement la seconde. La voiture marchait toujours, bon gré, mal gré. Les charrettes et les autres voitures étaient entravées dans leur course par cette voiture qui ne savait si elle devait avancer ou non. Jamais on ne vit pareille confusion à quatre roues. Mais Suzanne Nipper remplit vaillamment le devoir qu'elle s'est imposé. Elle conserve une mine souriante devant sa maîtresse. Elle rit à travers ses larmes jusqu'à la fin. Mais quand elle en est descendue, le capitaine continue à paraître et à disparaître à la portière en criant « Hurrah, mon garçon, hurrah, délice du cœur !» Son col de chemise est en proie à une agitation violente jusqu'au moment où il n'y a plus d'espoir de pouvoir soutenir la lutte avec la voiture. Enfin, quand elle a disparu, Suzanne Nipper, que le capitaine vient retrouver, tombe en syncope. On la transporte dans la boutique d'un boulanger pour lui faire reprendre ses esprits. L'oncle Sol et M. Toots attendent patiemment dans le cimetière de l'église, assis près des grilles sur les marches, le retour du capitaine Cuttle et de Suzanne. Personne n'a envie de parler. Personne n'a envie qu'on lui parle. On n'a jamais vu compagnie qui fût mieux d'accord. Ils retournent chez le petit aspirant de marine, se mettent à table pour déjeuner, sans que personne puisse avaler une bouchée. Le capitaine Cuttle a l'air de vouloir dévorer son pain grillé, mais ce n'est qu'une frime. M. Toots, après le déjeuner, dit qu'il reviendra dans la soirée et va se promener toute la journée par la ville, avec l'idée vague qu'il ne s'est pas couché depuis 15 jours. Il y a comme un sort jeté sur la maison, sur la pièce dans laquelle ils avaient l'habitude de se réunir et qui vient de faire une si grande perte. Ce sort enchanté rend à la fois plus pénible et moins dur la douleur de la séparation. M. Toots dit à Suzanne Nipper, quand il revient le soir, qu'il n'a jamais été aussi malheureux qu'aujourd'hui, mais ça ne fait rien, il en est bien aise. Il s'épanche dans le sein de Suzanne Nipper, qui est seule avec lui, lui rappelle l'état de son cœur, le jour où elle lui a naïvement répondu qu'il n'était pas probable que Mademoiselle Dombey l'aimât jamais. Dans l'ardeur des confidences que font naître des souvenirs communs et leurs larmes réciproques, M. Toots propose de sortir ensemble et d'acheter quelque chose pour le souper. Miss Nipper approuve. Ils achètent beaucoup de bonnes choses et, aidés de Madame Richard, ils préparent un joli petit souper pour le retour du capitaine et du vieux Sol. Le capitaine et l'oncle Sol sont allés à bord. Ils y ont installé Diogène. Ils ont vu embarquer les mâles. Ils ont beaucoup de choses à dire sur la popularité dont Walter jouit parmi les passagers, sur les embellissements auxquels Walter a travaillé, du matin jusqu'au soir, pour faire de sa cabine ce que le capitaine appelle un bijou, dans l'intention de surprendre sa petite femme. « La cabine d'un amiral, entendez-vous, dit le capitaine, n'est pas plus pimpante. Mais un des plus grands plaisirs du capitaine, c'est de savoir que son oignon, ses pinces à sucre et ses petites cuillères à thé sont à bord. » Et il se dit et se redit en lui-même, « Édouard Cuttle, mon garçon, vous n'avez jamais eu une meilleure idée que le jour où vous avez fait ce petit cadeau conjointement. »« Vous voyez comme cela a profité, Édouard, dit le capitaine, et cela vous fait honneur, mon garçon. » Le vieil opticien a la tête un peu plus embrouillée qu'à l'ordinaire. Il est plus sombre. Ce mariage et surtout cette séparation lui tiennent au cœur. Mais il est grandement consolé par son vieil ami, Ned Cuttle, qui est à ses côtés. Aussi, quand il se met à table pour souper, sa figure est plus heureuse et plus gaie. « Mon enfant a été sauvé, dit le vieux Sol Gills, en se frottant les mains, et il est en bon chemin. Quel droit aurais-je de me plaindre et de ne pas me montrer joyeux et content ?» Le capitaine, qui ne s'est pas encore mis à table et qui n'a fait depuis quelque temps que virer d'un côté et de l'autre, se tient debout d'un air indécis à sa place, regarde du même air M. Gills et lui dit « Sol, il y a encore en bas la dernière bouteille du vieux Madère. Voulez-vous la monter ce soir, mon garçon, et la boire à la santé de Walter et de sa femme ?» L'opticien regarde le capitaine avec attention, met sa main dans la poche de devant de son habit couleur café, prend son portefeuille et en retire une lettre. « À M. Dombey, dit le vieillard, de la part de Walter, à remettre dans 3 semaines. Je vais la lire. « Monsieur, j'ai épousé votre fille. Elle part avec moi pour un voyage lointain. Si je lui suis dévoué, ce n'est pas une raison, peut-être, pour avoir des droits à son amitié ou à la vôtre. Dans tous les cas, Dieu sait que je lui suis sincèrement dévoué. Mais, direz-vous, puisque je l'aime plus qu'on ne peut aimer toutes les créatures de la terre, pourquoi l'ai-je associé sans remords à mon existence pleine d'incertitudes et de dangers? Je ne vous le dirai pas, vous savez pourquoi, et vous êtes son père. Ne lui faites pas de reproches, elle ne vous en a jamais fait. Je ne pense pas, je n'espère pas que vous me pardonniez jamais. Je ne compte pas du tout là-dessus. Mais s'il vient un moment où ce soit pour vous une consolation de savoir que Florence a près d'elle quelqu'un dont l'occupation tout entière sera de lui faire oublier le passé, je vous jure, par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, que vous pourrez être, à ce moment, sans la moindre inquiétude. » Solomon remit tranquillement la lettre dans son portefeuille et son portefeuille dans sa poche. « Nous ne boirons pas encore aujourd'hui la dernière bouteille de Madère, Edouard, » dit le vieillard d'un air pensif. « Non, pas encore. » « Non, pas encore. Non, 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 pas encore, » dit le capitaine, avec un signe d'assentiment. Suzanne et M. Toots sont du même avis. Après un moment de silence, ils se mettent tous à table et boivent à la santé du jeune mari et de la jeune femme avec un autre vin. Mais la dernière bouteille de Madère reste tranquille sous sa poussière et ses toiles d'araignée. Quelques jours se sont écoulés, et un grand navire, en pleine mer, ouvre ses voiles blanches au vent favorable. Sur le pont est Florence. Pour les plus rudes marins, elle est l'image de la grâce, de la beauté, de l'innocence. C'est pour eux une joie, un bonheur de la voir avec eux. C'est le bon ange qui écartera loin d'eux les tempêtes. Il fait nuit et Florence est assise seule avec Walter sur le pont, regardant sur la mer le reflet argenté entre la lune et eux. À la fin, sa vue se trouble, car ses yeux sont voilés par les larmes. Elle penche sa tête sur la poitrine de son jeune époux, passe ses bras autour de son cou et dit « Oh, Walter, mon bien-aimé, que je suis heureuse !» Walter la serre contre son cœur. Ils sont calmes tous deux, et le majestueux navire poursuit sa course sereine. Quand j'entends le murmure de la mer et que je regarde ses eaux, cela me rappelle tant de souvenirs. Je ne puis m'empêcher de penser à... Vous pensez à Paul, mon amour, je le sais. Elle pensait à Paul et à Walter. Et les vagues, dont le murmure jamais ne cesse, lui parlaient tout bas d'amour, d'un amour éternel, infini, qui ne s'arrête ni aux confins du monde, ni à la suite des siècles, mais qui vit toujours au-delà des mers, au-delà des cieux, bien loin, dans une région invisible. » Chapitre 20. Quelque temps après. Pendant une année entière, la mer avait eu son flux et son reflux. Pendant une année entière, les vents et les nuages avaient passé et disparu. Le temps avait continué au milieu des orages ou des beaux jours sa marche que rien n'arrête. Pendant une année entière, les affaires humaines avaient eu aussi leur flux et leur reflux selon leur destinée. Pendant une année entière, la fameuse maison Tombet et Fils avait soutenu une lutte acharnée contre des événements de toutes sortes qui menaçaient son existence. Des rumeurs suspectes, de mauvaises chances, des contretemps, tout conspirait contre elle, et surtout l'orgueil de son chef, qui ne voulait ni réduire d'un zéro le chiffre de ses entreprises, ni comprendre que le vaisseau qu'il roidissait contre la tempête était trop faible pour pouvoir résister longtemps à cette épreuve. Une année donc se passe, et la grande maison s'était écroulée. C'était en été, dans l'après-midi. Une année, à quelques jours près, s'était à peine écoulée depuis le mariage célébré dans l'église de la cité, qu'on se mit à chuchoter à la bourse, à se parler tout bas d'une grande faillite. Un homme fier et froid, bien connu dans ces parages, n'y était pas et n'y était représenté par personne. Le lendemain, le bruit circula que Dombey et fils avaient suspendu ses paiements. Le soir même paraissait une liste de banqueroute où ce nom-là était en tête. C'est alors que le monde ne perdit pas un coup de langue. Pauvre monde, trop crédule et trop innocent, avait-il été assez victime de sa confiance. Un monde si honnête qu'il ne savait pas ce que c'était que de faire banqueroute. Ce n'est pas comme ces gens qui trafiquent à droite, à gauche, de religion, de patriotisme, d'honneur et de vertu, pour soutenir par ces grands mots leur banque pourrie. Ce n'est pas comme ces gens qui ne vivent que de papiers en circulation, de leurs et de fausses promesses. Dans le monde atteint par M. Dombey, il n'y avait pas de ce tripotage-là. C'était un monde argent comptant. Aussi était-il furieux, surtout ceux de ses membres, qui partout ailleurs auraient pu passer eux-mêmes pour des gens à la veille de faire banqueroute. Ceux-là étaient justement les plus acharnés dans leur honnête indignation. C'était là la tragédie dans la représentation générale, mais il y avait aussi la petite pièce. C'est M. Punch, le messager, qui en était le héros unique. Il était évidemment dans les destinées de M. Punch de se réveiller tous les matins un personnage. Pas plus tard qu'hier, on aurait pu croire qu'il était enfin retombé dans la vie privée du haut de la célébrité que lui avait valu l'enlèvement et tout ce qui s'ensuit. Mais ne voilà-t-il pas un autre événement qui le remet sur son piédestal? Il semble que cette banqueroute était faite tout exprès. Il avait quitté sa sellette pour aller dans les bureaux d'entrée où il siégeait maintenant. Là, il s'amusait à examiner les étranges figures des syndics et des autres personnages qui venaient de prendre en très peu de temps les places des anciens commis. Quant à M. Punch, il n'avait qu'à se montrer dans la cour ou tout au plus aux armes du roi pour se voir adresser une foule de questions qui finissaient presque toujours à coup sûr par celle-ci « Qu'est-ce que vous allez prendre pour vous rafraîchir ?» Alors M. Punch ne tarissait pas sur les cruels quarts d'heure que Mme Punch et lui avaient passé à Ball's Pond la première fois qu'ils avaient cru voir que les choses allaient mal. C'est alors que M. Punch, entouré de tous ces curieux avides, qui l'écoutaient bouche bée, leur parlait tout bas de l'événement, si bas qu'on eût dit que le corps de la maison défunte était là sur son lit funèbre dans la pièce à côté. Il racontait comment Mme Punch en était venue pour la première fois à deviner que les choses allaient mal. C'était quand elle avait entendu M. Punch gémir pendant son sommeil et s'écrier « 50%, 50%. » Il attribuait cet acte de somnambulisme à l'impression que le changement de la physionomie de M. Dombey avait produite sur lui. Puis il leur rassurait qu'un jour il avait dit à M. Dombey « Oserais-je, monsieur, vous demander si vous êtes dans une triste situation d'esprit ?» Et que M. Dombey lui avait répondu « Mon fidèle Punch, mais non, ce n'est pas possible. » Et que se frappant le front, il l'avait quitté en disant « Punch, laissez-moi. » Bref, M. Punch, victime de sa position, se croyait obligé de débiter un tas de mensonges, se laissant toucher lui-même jusqu'aux larmes par ses contes larmoyants et finissant par se persuader, en toute sincérité, que ses inventions de la veille étant répétées le lendemain, acquérait nécessairement par là un certain caractère d'authenticité. M. Punch terminait toujours toutes ses confidences en faisant observer avec douceur que s'il avait eu des soupçons, en avait-il jamais eu, c'était une question, ce n'était pas à lui, Punch, de trahir la confiance de son maître, et il en appelait aux personnes présentes parmi lesquelles, à dire vrai, jamais il ne se trouvait de créancier. Aussi, chacun le félicitait de ses heureux sentiments, en sorte qu'en général, M. Punch emportait toujours de ses conférences une conscience tranquille et laissait derrière lui une impression favorable quand il retournait à sa sellette, toujours pour examiner les étranges figures des syndics et des autres personnages, si habiles à déchiffrer le grimoire des grands livres. De temps en temps, il allait sur la pointe des pieds dans la chambre vide de M. Dombey pour tisonner. Tantôt il allait à la porte prendre l'air et causer tristement avec quelque flâneur de sa connaissance, ou bien il cherchait par mille petites prévenances à se concilier le chef des syndics, M. Punch espérant toujours qu'il lui ferait obtenir une place d'homme de peine dans une compagnie d'assurance contre l'incendie lorsque la liquidation de la maison serait terminée. Quant au major Backstock, la banqueroute fut pour lui une vraie calamité. Le major n'avait pas une sensibilité très vive à l'endroit des malheurs d'autrui. Il s'occupait trop pour cela de sa petite personne. Il n'éprouvait de violentes émotions que lorsqu'il ouvrait la bouche pour respirer, quand il étouffait. Mais il avait tellement promené son M. Dombey au club, il l'avait tellement fait mousser devant les principaux personnages de cette réunion, il avait parlé tant de fois de sa fortune que le club, animé de sentiments charitables, se faisait un plaisir de tomber sur le major et de lui demander, avec les marques du plus vif intérêt, si ce coup terrible n'avait pas été prévu d'avance et comment M. Dombey l'avait supporté. En présence de pareilles questions, le major devenait pourpre et répondait qu'il fallait que le monde fût bien méchant. « Parbleu, monsieur, je le sais bien, j'ai été joué comme un enfant. Vous m'en auriez prévenu, monsieur, moi, Backstock, quand je partis en France avec Dombey à la poursuite du misérable, que Backstock vous aurait ri au nez. J'en aurais haussé les épaules. » Ah oui, Backstock a été trompé, pris au piège. Oui, on lui a bandé les yeux. Mais à présent, il les a tout grands ouverts et il voit parfaitement clair. Le vieux Joe s'est laissé prendre. Ah, si son père ressuscitait demain du tombeau, il n'en donnerait pas un sou de la vieille lame et il dirait, sacrebleu, monsieur, qu'un vieux grognard comme moi n'aurait pas dû se laisser faire la queue. Le major Backstock ajoutait que Zhao n'était plus qu'une vieille croûte, un Pékin, et que si un rude et solide major, un vieux camarade qui avait eu l'honneur d'être personnellement connu et protégé par leurs défuntes altesses, les ducs de Kent et d'York, ne se ravalait pas en se tirant dans un tonneau pour y passer le reste de sa vie. « Sacrebleu, monsieur, disait-il, j'en aurai un à Pall Mall pas plus tard que demain pour montrer tout le mépris que je fais de l'espèce humaine. » Le major continua si longtemps sur le même ton, roulant sa tête comme s'il allait être frappé d'apoplexie et poussant dans son ressentiment des grognements si violents que les plus jeunes membres du club, il fallait qu'ils fussent bien jeunes, s'imaginèrent qu'il avait de l'argent placé dans la maison de son ami Dombey et qu'il l'avait perdu. Mais les anciens de la société étaient de trop fins renards pour avoir de ces idées-là. Ils connaissaient trop bien leur homme pour donner dans le panneau. Le malheureux nègre ne disait rien, mais il envoyait de dur. Sa sensibilité morale et sa sensibilité physique étaient mises à de rudes épreuves. Le major tirait sur la première à chaque heure du jour et la criblait de part en part. Quant à la seconde, il la tenait toujours en haleine grâce aux coups de poing et aux coups de pied qu'il lui administrait continuellement. Pendant les 6 semaines qui suivirent la banqueroute, cette malheureuse créature exotique vécut toute une saison sous une averse effroyable de brosses et de tire-bottes. Madame Chick avait 3 idées sur la cause de ce terrible revers. La première, c'est qu'elle n'y pouvait rien comprendre. La seconde, c'est que son frère n'avait pas fait un effort. Et la troisième, c'est que l'événement ne serait jamais arrivé si elle avait été invitée à dîner lors de la première soirée. Elle l'avait bien dit ce jour-là. Mais chacun pouvait en penser tout ce qu'il voulait. Cela n'empêchait pas la banqueroute d'être trop réelle et ne pouvait rien y changer. On apprit que la liquidation serait faite le mieux possible, que M. Dombey abandonnait tout ce qu'il avait sans demander la moindre concession, que loin de songer à rentrer dans les affaires, il ne voulait pas même en entendre parler, et qu'il avait résigné tous les postes de confiance et de distinction que lui avait valu sa position respectable dans le négoce. Il se mourait selon les uns, il était devenu fou selon les autres. C'était un homme perdu selon tout le monde. Les employés se dispersèrent après un petit dîner de condoléances où ils égayèrent le repas par des chansons comiques pour se séparer comme il faut. Quelques-uns trouvèrent des places à l'étranger, d'autres rentrèrent dans des maisons de commerce à Londres, quelques-uns s'adressèrent à des amis qu'ils avaient dans la province et pour lesquels ils s'étaient rappelés subitement qu'ils avaient une affection particulière. D'autres se firent annoncer dans les journaux pour demande d'emploi. Seul de toute l'ancienne maison, M. Perch resta. Il continua à s'asseoir sur la sellette, occupé à regarder les syndics ou à se précipiter au-devant du chef des syndics pour se concilier l'homme qui devait lui faire obtenir une place dans une compagnie d'assurance contre l'incendie. La maison de commerce devint bientôt sale et négligée. Le marchand de pantoufles et de colliers de chien, dont la boutique faisait le coin du passage, aurait hésité à porter la main au rebord de son chapeau si M. Dombey avait apparu en personne, et le commissionnaire, les mains sous son tablier blanc, faisait un beau sermon sur l'ambition qui, à son avis, disait-il, ne rimait pas pour rien avec perdition. M. Morfin, le vieux garçon aux yeux en amande, aux cheveux et aux favoris grisonnants, était peut-être la seule personne de la maison, à l'exception du chef, comme de juste, qui fut sincèrement et profondément affligé du désastre survenu. Il avait témoigné à M. Dombey, pendant bien des années, le respect et la déférence qui lui étaient dus, mais sans jamais déguiser son propre caractère, sans jamais ramper devant lui, sans flatter bassement la passion dominante de son patron pour aider à son propre avancement. Aussi n'avait-il pas à venger maintenant sa dignité sacrifiée. Il ne s'était jamais assez avancé pour avoir besoin d'une reculade. Il travaillait du matin au soir pour éclaircir tout ce qu'il y avait de compliqué ou de difficile dans les comptes de la maison. Il était toujours prêt à donner toutes les explications qu'on lui demandait, restait quelquefois fort tard le soir dans son ancien cabinet de travail, étudiant, grâce à sa facilité, certaines questions ardues pour épargner à M. Dombey l'ennui d'être appelé lui-même. Puis il rentrait à Islington et calmait son esprit en tirant de son violoncelle les sons les plus tristes et les plus désespérés avant de se mettre au lit. Il était en train de se consoler un soir, son instrument à la main, et comme son travail de la journée l'avait découragé, il raclait ses notes les plus basses quand sa propriétaire, qui heureusement pour elle était sourde et n'avait le sentiment des morceaux qui s'exécutaient que par un certain tremblement qu'elle éprouvait dans toute sa personne, annonça une dame. « Elle est en deuil, » dit-elle. Le violoncelle s'arrêta immédiatement. L'artiste coucha l'instrument sur un sofa avec le plus grand soin et la plus vive sollicitude, et fit signe que la dame pouvait entrer. Il suivit la propriétaire et rencontra Henriette Carker sur l'escalier. « Seule, » dit-il, « et John est venu ici ce matin. Y aurait-il quelque chose, ma chère demoiselle ?»« Mais non, » ajouta-t-il, « votre figure me dit le contraire. » « Je crains bien alors, » répondit-elle, « si elle est si indiscrète qu'elle ne vous dise que ma visite est intéressée. »« Elle n'en est pas moins très agréable, » dit-il, « et si c'est l'intérêt qui vous amène, vous, je serais vraiment curieux de vous entendre, mais je ne le crois pas. » Il avait avancé une chaise pour elle et s'était assis en face. Le violoncelle reposait doucement sur le canapé entre eux deux. « Vous ne serez pas étonné que je sois venu seul ou que je n'ai pas prévenu John de ma visite, » dit Henriette, « quand je vous dirai pourquoi je suis ici. Puis-je m'expliquer maintenant ?»« Certainement. Vous n'étiez pas occupé. » Il montra du doigt le violoncelle couché sur le sofa en disant « J'ai travaillé toute la journée, voici mon témoin. Je l'ai pris pour confident de toutes mes peines. Plût à Dieu que je n'eusse que les miennes à lui raconter. » « La maison est-elle décidément ruinée ?»« Oui, tout à fait. Ne se relèvera-t-elle jamais ?»« Jamais. » L'expression de bonheur qui illuminait son visage ne changea pas pendant que ses lèvres répétaient tout bas le mot « jamais ». M. Morphine le remarqua avec une surprise involontaire et redit encore « Non, jamais. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Il a été tout à fait impossible de le convaincre, impossible de raisonner avec lui. » Impossible même quelquefois de l'approcher. Tout a été au plus mal. La maison s'est écroulée pour ne se relever jamais. Et M. Dombey est-il ruiné personnellement ? Oui. Ne lui restera-t-il rien, absolument rien ? Son empressement en faisant cette question, son regard presque joyeux le surprenait de plus en plus. Il était désappointé, et cette gaieté n'était pas en accord avec ses propres émotions. Il tambourina d'une main sur la table en regardant Henriette d'un air pensif et, secouant la tête, lui dit, après un moment de silence, « Je ne sais pas au juste l'étendue des ressources de M. Dombey. Bien qu'elles soient très grandes, je n'en doute pas, les obligations qu'il a contractées sont considérables. C'est un homme loyal et intègre. Un autre à sa place aurait pu se tirer d'embarras et beaucoup l'auraient fait en signant un concordat qui aurait accru d'une manière presque insignifiante les pertes des créanciers et lui aurait laissé à lui de quoi vivre. Mais il a résolu de donner jusqu'à son dernier sou. Il a dit positivement qu'on acquittera, ou peu s'en faut, les dettes de la maison, que les créanciers ne perdront presque rien. Ah, Miss Henriette, on devrait bien se rappeler plus souvent que nous ne le faisons que les vices sont quelquefois des vertus poussées à l'excès. Son orgueil nous le prouve en cette circonstance. » Elle l'écoutait toujours d'un air aussi riant, et en l'écoutant, ou plutôt en ayant l'air de l'écouter, elle était toute distraite, comme si elle était à la poursuite d'une idée. Quand il eut fini de parler, elle lui demanda avec vivacité « Y a-t-il longtemps que vous ne l'avez vu ?»« Personne ne le voit. Quand ses malheureuses affaires le forcent à sortir de chez lui, il s'y décide avec peine, rentre ensuite à la maison, s'y enferme et ne veut voir personne. » Il m'a écrit une lettre d'adieu, dans laquelle il place plus haut qu'il ne le mérite les services que j'ai rendus à la maison. Il m'en coûte de le gêner de ma présence, n'ayant eu jamais avec lui beaucoup de rapports dans des temps meilleurs. J'ai pourtant cherché à le voir, je lui ai écrit, je me suis présenté en personne, j'ai insisté, tout a été inutile. Il la regardait, dans l'espérance qu'il lui verrait enfin montrer plus de sympathie qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors, et parlait d'un ton grave et ému pour l'attendrir davantage. Mais non, l'expression de sa physionomie ne changeait pas. « Allons, allons, Miss Henriette, » dit-il d'un air contrarié, « il ne s'agit pas de cela. Ce n'est pas pour entendre tout cela que vous êtes venue ici. Vous avez sans doute quelques sujets plus agréables. Faites-m'en part, et nous nous entendrons mieux. Voyons, j'écoute. Non, le sujet qui m'occupe est le même, répondit Harriet avec un mouvement de naïve surprise. Est-ce que cela ne doit pas être? Est-ce qu'il n'est pas naturel que John et moi nous ayons pensé à tous ces grands changements et que nous en ayons longuement parlé? Monsieur Dombey, chez lequel mon frère a été employé tant d'années, vous savez comment, Monsieur Dombey est réduit à la misère, comme vous le dites, et nous, nous sommes immensément riches. Ce visage si plein de bonté, de franchise, ce visage que Monsieur Morfin, le célibataire aux yeux en amande, avait trouvé si charmant depuis qu'il l'avait vu, lui plaisait moins en ce moment qu'il le voyait radieux et triomphant. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, dit Henriette en montrant des yeux ses vêtements de deuil, comment notre position a changé. Vous n'avez pas oublié que notre frère James, dans ce jour terrible, n'a laissé aucun testament, et que nous étions ses seuls parents. Ce visage lui plut davantage, malgré sa pâleur et sa tristesse. Il respira plus librement. Vous savez, dit-elle, notre histoire, l'histoire de mes deux frères, et les rapports qu'ils ont eus avec cet infortuné Monsieur Dombey, dont vous avez parlé avec tant de vérité. Vous savez combien nos besoins à John et à moi sont restreints. Combien l'argent nous est inutile, après la vie que nous avons menée ensemble depuis tant d'années, maintenant surtout que, par votre bonté, il a obtenu une place qui nous procure un revenu suffisant. Vous commencez à comprendre la faveur que je viens vous demander, n'est-ce pas? Je ne sais. Il y a un instant, je croyais comprendre. Je crois maintenant que je n'y suis plus. Je ne dis rien de mon frère qui n'est plus, si les morts savent ce que nous faisons. Mais vous me comprenez. Quant au frère qui me reste, j'aurai beaucoup à vous dire à son éloge. Mais qu'ai-je besoin de vous en dire davantage, sinon que le devoir pour lequel votre secours m'est indispensable est sacré pour lui et qu'il n'aura de repos qu'après l'avoir accompli. Et l'expression de joie qui éclairait sa figure la fit trouver bien belle aux yeux qui l'observaient fixement. « Cher monsieur, continua Harriet, il faut que cela soit fait sans bruit et en secret. » Votre expérience et vos relations avec M. Dombey vous suggéreront les moyens qu'il sera bon d'employer. Par exemple, on pourrait laisser croire à M. Dombey que par le plus grand des hasards, quelque chose a pu échapper au naufrage de sa fortune, ou encore que c'est un hommage volontaire adressé à son caractère honorable et élevé par quelques-unes des personnes avec lesquelles il a fait de grandes affaires, ou enfin que c'est le paiement d'une vieille dette. Il doit y avoir plusieurs moyens. Je sais que vous choisirez le meilleur. La faveur que je suis venu vous demander, c'est de vouloir bien nous aider à réussir avec votre caractère si bon, si généreux, si judicieux. Je vous en prie, n'en parlez jamais à John, dont le plus grand bonheur dans cet acte de restitution est de l'accomplir secrètement, sans qu'on le sache, sans qu'on l'en loue. Qu'on ne nous réserve qu'une très petite partie de l'héritage qui passera tout entier en usufruit entre les mains de M. Dombey, sa vie durant. Et surtout, gardez-nous fidèlement notre secret, j'y compte. À partir d'aujourd'hui, qu'il reste entre nous, et n'en parlons ensemble, par occasion, que le moins possible. Pour moi, si je veux y penser toujours, c'est parce que j'y trouverai une raison de plus de remercier le ciel et de me sentir heureuse et fière de mon frère. La joie qui illumine le visage des anges, en recevant dans le ciel le pécheur repentant, n'est pas plus pure que celle qui illuminait en ce moment le visage d'Henriette. Les larmes de bonheur qui remplissaient ses yeux ajoutaient un nouvel éclat à sa physionomie. « Ma chère Henriette, dit M. Morfin après un moment de silence, je ne m'attendais pas à ce dénouement. Vous ai-je bien compris? Vous voulez abandonner votre part d'héritage, comme votre frère John abandonne la sienne pour l'accomplissement de votre généreux dessein. « Oh oui, répondit-elle, après avoir partagé tous les deux nos soucis, nos espérances, nos desseins, pourrais-je ne pas prendre ma part de cet acte de justice? N'ai-je pas le droit de continuer jusqu'au bout notre communauté de cœur et d'intérêt? Le ciel me garde de vous contester ce droit-là. Nous pouvons compter sur votre amitié, n'est-ce pas? Oh oui, j'y compte. Je ne vaudrais pas ce que j'espère valoir si je ne vous donnais cette assurance de tout mon cœur. Vous pouvez y compter, sans que j'aie besoin de vous le jurer. Sur mon honneur, je garderai votre secret. Et s'il arrive que M. Dombey se trouve réduit, comme je le crains, à la dernière extrémité par la détermination irrévocable qu'il aura voulu prendre, je vous aiderai à accomplir le dessein pour lequel vous êtes d'accord avec John. » Elle lui donna la main et le remercia avec un visage plein de franche amitié et de bonheur. « Henriette, dit-il en gardant sa main dans la sienne, vous dire tout ce qu'il y a pour vous de mérite à faire un sacrifice, surtout un sacrifice d'argent, serait ridicule et présomptueux. Vous priez de réfléchir à ce que vous voulez faire ou vous engagez à mettre des bornes à votre libéralité, ne le serait pas moins, j'imagine. Je n'ai pas le droit de venir gâter la noble conclusion d'une noble histoire par l'intervention de mes humbles conseils. Il ne me reste qu'à me prosterner devant votre généreuse résolution, inspirée par des sentiments plus nobles et plus purs que tout ce que le monde m'a appris jusqu'ici. Je vous dirai seulement que vous aurez en moi un intermédiaire fidèle. Après le vôtre, c'est le rôle le plus beau que je puisse envier. » Elle le remercia du fond du cœur et lui dit adieu. « Rentrez-vous chez vous, lui dit-il, permettez-moi de vous accompagner. Non, pas ce soir. Je ne rentre pas encore. J'ai une visite que je dois faire seule. Voulez-vous venir demain ? » ?»« Oui, oui, dit-il, j'irai vous voir demain. D'ici là, je réfléchirai à ce qu'il y aura de mieux à faire. Et peut-être y penserez-vous aussi, Miss Henriette, et penserez-vous un peu à moi par la même occasion. » Il l'accompagna jusqu'à la voiture qui l'attendait à la porte, et si sa propriétaire n'eût pas été sourde, elle aurait pu l'entendre quand il remonta l'escalier, après le départ de la voiture, marmotter entre ses dents. « Nous ne sommes que des bêtes d'habitude, mais ma foi, c'est une triste habitude que d'être vieux garçon. » Le violoncelle était toujours étendu sur le canapé entre les deux chaises vides. Il le prit et joua longtemps, bien longtemps, d'un air distrait, en secouant lentement la tête devant la chaise d'Henriette. Les sons qu'il tira de son instrument, quoique terriblement tendres et sympathiques, n'étaient rien auprès de l'expression qu'il donnait à son visage en regardant la chaise vide. L'émotion qu'il ressentait était si vraie que, plus d'une fois, il fut obligé d'avoir recours au remède du capitaine Cuttle et de passer sur sa joue la manche de son habit. Peu à peu, cependant, le violoncelle, d'accord avec l'état de son âme, fit entendre l'air mélodieux du forgeron harmonieux. Il le joua et le rejoua tant de fois que son visage vermeil et serein avait pris l'éclat enflammé du métal sur l'enclume d'un vrai forgeron. Enfin, pour tout dire, le violoncelle et la chaise vide tinrent compagnie au célibataire jusqu'au milieu de la nuit. Quand il se mit à table pour souper, le violoncelle posé debout sur un coin du canapé, tout résonnant encore des mélodies d'un atelier complet de forgerons harmonieux, semblait lancer à la chaise vide des regards d'intelligence d'une expression indicible. Quand Henriette quitta la maison, le cocher de sa remise suivit une route qui, évidemment, ne lui était pas inconnue. Il prit une foule de ruelles pour gagner les faubourgs et arriva à un terrain découvert où se trouvaient quelques petites maisonnettes tranquilles et retirées au fond des jardins dont elles étaient environnées. Il s'arrêta à la porte de l'une d'elles et Henriette descendit. À son léger coup de sonnette apparut une femme à l'air triste, au teint pâle, les sourcils relevés, la tête penchée de côté. À la vue d'Henriette, elle fit une révérence et la conduisit à la maison, à travers le jardin. « Comment va votre malade ce soir ?» dit Henriette. « Mal, mademoiselle, j'en ai bien peur. Oh, comme elle me rappelle par moments Betsy Jane, la fille de mon oncle !» répondit la femme au teint pâle, avec une exclamation douloureuse. « Sous quel rapport ?»« Sous tous les rapports, sinon qu'elle est plus grande, et que Betsy Jane, quand elle était aux portes du tombeau, n'était encore qu'une enfant. « Mais vous m'aviez dit qu'elle commençait à se rétablir, » dit Henriette, d'un ton de douce pitié. « Il y a donc tout lieu d'espérer, Madame Wickham. »« Ah, mademoiselle, l'espérance est une excellente chose pour qui peut l'avoir, » dit Madame Wickham en secouant la tête. « Mais moi, je n'ai pas cette force-là. L'espoir n'est pas fait pour moi. Je ne puis qu'envier ceux qui espèrent. » « Il faut tâcher de prendre le dessus et ne pas voir tout en noir, » dit Henriette. « Je vous remercie, mademoiselle, » dit Madame Wickham d'un air chagrin. « Quand je serai disposée à être de bonne humeur, la solitude dans laquelle je me trouve, excusez-moi de ma franchise, me la ferait passer en 24 heures. Mais je n'y suis nullement disposée, je ne le pourrai pas. Le peu de bonne humeur que j'ai jamais eue, je l'ai perdue à Brighton il y a quelques années. » et je ne m'en trouve que mieux. De fait, c'était toujours la même Madame Wickham qui avait succédé à Madame Richard pour avoir soin du petit Paul et qui faisait remonter la perte de sa bonne humeur à son séjour sous le toit de l'aimable Madame Pipchin. Il existe un vieux système d'éducation d'une sollicitude bien prévoyante qui semble autorisé par un long usage et qui, pour l'ordinaire, va choisir dans l'espèce humaine les êtres les plus lugubres et les plus désagréables qu'on puisse imaginer pour en faire des maîtres de la jeunesse, des poteaux indicateurs de la route des vertus. C'est le bois dont on fait les matrones, les surveillantes, les gardes-malades, etc., etc. C'est ce système qui avait mis à la mode Madame Wickham comme garde-malade et qui avait particulièrement recommandé ses qualités sérieuses à l'admiration d'une nombreuse clientèle. Madame Wickham, le sourcil relevé, la tête de côté, monta, une lumière à la main, l'escalier qui conduisait à une chambre gentille et propre, donnant dans une autre pièce tristement éclairée, où se trouvait un lit. Dans la première chambre était assise une vieille, dont le regard machinalement dirigé vers la fenêtre, en ce moment ouverte, ne se fixait sur rien dans la rue sombre. Dans la seconde pièce était étendu sur un lit de douleur le squelette d'une femme qui, par une soirée d'hiver, avait bravé le vent et la pluie. On aurait eu bien de la peine à la reconnaître maintenant, si ce n'est à sa longue chevelure noire, qui contrastait avec la pâleur de son visage et la blancheur du linge qui l'enveloppait. Quel regard ferme, mais aussi quel corps fragile! Ses yeux étincelèrent quand, à l'arrivée d'Henriette, elle les dirigea du côté de la porte, mais sa tête, trop faible, ne put se relever. Elle n'eut que la force de se tourner lentement sur l'oreiller. « Alice, dit la douce voix d'Henriette, suis-je en retard ce soir? Vous venez toujours de bonne heure, mais pour moi, toujours trop tard. » Henriette s'était assise au chevet. Elle posa sa main sur la main décharnée de la malade. « Vous êtes mieux ?» Madame Wickham, debout au pied du lit comme un spectre de malheur, fit de la tête un signe énergique qui démentait résolument cette supposition. Madame Wickham, la sévère Madame Wickham, fit entendre un grognement approbateur. De son air glacial, elle donna quelques petits coups sur les draps au bout du lit, comme pour tâter les pieds de la malade qu'elle s'attendait à trouver roide comme une pierre. Puis elle s'en alla en remuant l'une contre l'autre les fioles placées sur la table d'un air qui semblait dire « Puisque nous sommes là, nous n'avons rien de mieux à faire que d'administrer encore la potion de tout à l'heure. » « Non, dit Alice en parlant tout bas à l'oreille d'Henriette, il n'y a plus d'espoir. Les tristes voyages, les remords, les pénibles traversées, le besoin, les intempéries, les tempêtes qui m'ont assailli au-dedans comme au-dehors ont usé mon existence. Elle ne durera plus bien longtemps maintenant. » En parlant, elle prit la main d'Henriette et s'en couvrit le visage. « Quelquefois, je songe sur ce lit que je voudrais bien vivre encore assez pour vous prouver ma reconnaissance. C'est un moment de faiblesse qui passe bien vite. Tout est pour le mieux, pour vous comme pour moi. » Elle saisit la main d'Henriette, mais ce n'était plus comme le jour où elle l'a pris auprès du feu dans cette triste soirée d'hiver. « Oh mépris, oh rage, oh orgueil, oh violence, voilà donc comme tout finit. » Madame Wickham, ayant suffisamment secoué les fioles, présenta la potion. Elle lançait un sombre regard à sa malade pendant que celle-ci buvait. Elle plissait les lèvres et les sourcils, elle secouait la tête, semblant faire entendre qu'on la tuerait plutôt que de lui faire dire qu'il y avait de l'espoir. Là-dessus, Madame Wickham, la sévère Madame Wickham, se mit à semer ça et là dans la chambre du chlore en poudre, de l'air d'une fossoyeuse qui remuait cendres et poussières. Puis elle se retira pour aller en bas, prendre sa part de quelque festin funèbre. « Combien y a-t-il de temps, demanda Alice, que je suis allée chez vous vous dire ce que j'avais fait, et qu'on vous a répondu qu'il était trop tard pour le rejoindre ?»« Il y a plus d'un an, dit Henriette. »« Plus d'un an, fit Alice, en regardant attentivement Henriette. Des mois se sont écoulés depuis que vous m'avez transporté ici. »« Oui, répondit Henriette. Depuis que vous m'avez transporté ici, malgré ma résistance à votre bonté inépuisable, dit Alice, qui se cachait sous la main d'Henriette pour m'humaniser par vos regards et vos paroles de femme et par votre douceur d'ange. Henriette se pencha sur elle et la calma tout doucement. Quelques instants après, Alice, toujours étendue, la main d'Harriet contre sa joue, demanda qu'on fît venir sa mère. Henriette l'appela plusieurs fois, mais la vieille était tellement occupée à regarder par la fenêtre dans la rue sombre qu'elle n'entendit pas. Il fallut qu'Henriette allât près d'elle. La vieille alors se leva pour se rendre dans la chambre de la malade. « Mère, » dit Alice en reprenant la main d'Henriette et dirigeant vers elle son œil brillant d'un air affectueux, « dites-lui ce que vous savez. » Et elle se contenta d'adresser un geste à la vieille. « Ce soir, ma chérie ?»« Oui, mère, » répondit Alice d'une voix faible et solennelle, « ce soir. » La vieille, qui paraissait en proie à la peur, au remords et à la douleur, vint en rampant se placer en face d'Henriette de l'autre côté du lit. Elle s'agenouilla pour approcher sa figure flétrie au niveau de l'oreiller de la malade, puis étendant sa main comme pour toucher le bras de sa fille. « Ma belle fille, » dit-elle. Ciel ! Quel cri que celui qu'elle poussa en s'interrompant à la vue de ce pauvre squelette étendu sur le lit. « Elle est bien changée depuis longtemps, mère, flétrie depuis longtemps, » dit Alice sans la regarder. « Ne vous en chagrinez plus maintenant. » « Ma fille, » continua la vieille d'une voix tremblante, « ma fille, qui bientôt ira mieux, les éclipsera toutes par sa bonne mine. » Alice adressa à Henriette un regard lugubre et lui serra plus tendrement la main, mais elle ne dit pas un mot. « Oui, oui, » répéta la vieille, agitant en l'air son poing menaçant, « qui bientôt ira mieux et qui les éclipsera toutes par sa bonne mine. Oui, elle ira mieux. Quand je vous dis qu'elle ira mieux. » Elle avait l'air de s'animer pour répondre à quelque contradicteur invisible qui se tenait au chevet de la malade. « Ma fille a été chassée, rebutée, mais si elle voulait, elle pourrait se vanter d'avoir aussi pour parente de grandes dames. Oh oui, de grandes dames. On n'a pas besoin de vos ministres ni de vos anneaux de mariage pour avoir des parents. Ils auront beau faire, on ne peut pas briser ces liens-là. Et je le répète, ma fille est bien apparentée. » « Montrez-moi Madame Tombet, et je vous montrerai, moi, la cousine germaine de mon Alice. » Henriette porta son regard de la vieille vers les yeux étincelants de la malade fixés sur elle. Elle y vit la preuve que la mère disait vrai. « Eh bien, » dit la vieille, dont la tête branlante se retressa comme par un mouvement d'affreuse vanité, « quoique je sois vieille et laide maintenant, et encore beaucoup plus vieille par mon genre de vie et mes habitudes, que par les années, j'ai été autrefois aussi jeune que qui que ce soit. Oui, oui, et aussi jolie que beaucoup d'autres. Dans mon temps, dit-elle en étendant son bras par-dessus le lit vers Henriette, j'étais un beau brin de fille aussi, moi, et je n'étais pas seule à m'en apercevoir. Le père et l'oncle de Madame Tombet venaient de Londres dans mon village. C'étaient bien les plus charmants et les plus comme il faut gentlemen de la ville. Ils sont morts depuis longtemps. Ah, mon Dieu, qu'il y a déjà longtemps de tout cela. L'oncle, qui est devenu le père d'Alice, est mort le premier des deux. » Elle leva un peu la tête pour regarder le visage de sa fille. Le souvenir de sa jeunesse à elle lui rappelait la jeunesse de son enfant. Puis, tout à coup, elle pencha sa figure sur le lit et cacha sa tête dans ses mains et sur ses bras. « Ils se ressemblaient autant, » dit la vieille, sans relever la tête, « que peuvent le faire deux frères si rapprochés par l'âge. Je crois me rappeler qu'il n'y avait pas plus d'un an de différence entre eux, et si vous aviez vu ma fille, comme je l'ai vue à côté de la fille de l'autre, vous auriez reconnu, sauf la différence de leur costume et de leur existence, qu'elles se ressemblaient beaucoup aussi toutes deux. Hélas, faut-il que la ressemblance se soit effacée, et que ce soit ma fille seule, qui ait changé comme cela. Nous changeons tous, ma mère. « Chacun à notre tour, » dit Alice. « À notre tour, » s'écria la vieille. « Mais pourquoi n'est-ce pas le sien aussi bien que celui de ma fille ? La mère a bien changé, elle. Elle semblait aussi vieille que moi, et tout aussi ridée malgré son rouge. Mais sa fille au moins était belle. Qu'ai-je fait, moi, de pire qu'elle, pour que ce soit seulement la mienne qui se flétrisse ainsi ?» Et en poussant un autre cri sauvage, elle s'élança dans la première pièce. Mais bientôt elle revint de son pas chancelant et se traînant jusqu'à Henriette. « Voilà, lui dit-elle, ce qu'Alice m'a prié de vous dire. C'est là tout. J'ai découvert tout cela un jour d'été que j'ai voulu, dans le comté de Warwick, savoir qui elle était avec les tenants et les aboutissants. Ces parentés-là ne me servaient de rien alors. On m'aurait désavoué, et on n'avait rien à me donner. Si ce n'eût été pour ma fille, je leur aurais peut-être demandé un peu d'argent dans la suite. Mais Alice aurait été capable de me tuer, je crois, si je l'avais fait. Car elle aussi, elle n'était pas moins fière que l'autre dans son genre, dit la vieille qui approcha sa main tremblante de la figure de sa fille et la retira aussitôt. On ne le dirait pas maintenant qu'elle est si calme, mais c'est égal, elle les éclipsera encore par sa bonne mine. Ah, ah, ma fille, ma belle fille, certainement qu'elle les éclipsera encore. En se retirant dans l'autre pièce, son rire était plus effrayant que son cri. Plus terrible que les paroles incohérentes de désespoir par lesquelles elle termina. Plus triste que l'air égaré qu'elle reprit en s'asseyant à la fenêtre pour regarder dans la rue sombre. Les yeux d'Alice, pendant tout ce temps, étaient restés fixés sur Henriette, dont elle n'avait pas quitté la main. Elle lui dit alors, « Étendue sur mon lit de douleur, il m'a semblé que je serais heureuse de vous dire tout cela. Je pensais que vous y trouveriez peut-être l'explication de mon insensibilité. Je m'étais tant de fois entendu reprocher dans ma vie de déshonneur d'avoir manqué à mon devoir, que je finis par croire aussi que l'on n'avait pas non plus rempli ses devoirs envers moi, et que l'on avait récolté ce que l'on avait semé. Je compris que lorsque les jeunes personnes dans le monde ont une mauvaise éducation domestique, une mauvaise mère, elles tournaient mal, mais que leur malheur n'était pas à beaucoup près comparable au mien, et qu'elles devaient en remercier le bon Dieu. Tout cela est bien loin maintenant. C'est pour moi comme un rêve que je ne puis plus me rappeler complètement ni comprendre. C'est devenu chaque jour de plus en plus un rêve depuis que vous êtes venu près de moi me faire la lecture. Je ne peux vous en dire que ce que je m'en rappelle. Voulez-vous me faire encore une petite lecture ? Henriette retirait sa main pour ouvrir le livre, mais Alice la retint un moment. « Vous n'oublierez pas ma mère, n'est-ce pas ? Je lui pardonne, moi, tout ce que j'ai à lui reprocher. Je sais qu'elle me pardonne aussi et qu'au fond du cœur, elle souffre. Vous ne l'oublierez pas, n'est-ce pas ? Jamais, Alice. Encore un instant. Tournez ma tête comme cela, mon ami, pour que je puisse lire les mots sur votre visage à mesure que vous les lirez dans le livre. » Henriette obéit et commença sa lecture. Elle lut ce livre éternel écrit pour les âmes fatiguées, accablées, pour les malheureuses et les pécheurs, les pauvres abandonnés sur cette terre. Elle lut l'histoire sainte, cette histoire dans laquelle l'aveugle, le boiteux, le paralytique, le criminel, la pécheresse, les réprouvés, trouvent une consolation que l'orgueil, l'indifférence, les sophismes des hommes, pendant tout le temps que durera le monde, ne pourront leur enlever ou diminuer d'un atome. Elle lui lut la vie de celui qui a eu pour tous les âmes, pour toutes leurs espérances, comme pour toutes leurs douleurs, depuis le berceau jusqu'à la tombe, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, une tendre compassion, un touchant intérêt pour toutes les phases, toutes les périodes de leur existence, pour toutes leurs souffrances, pour toutes leurs misères. « Je reviendrai, » dit Henriette en fermant le livre, « demain matin de bonne heure. » Les yeux ardents d'Alice, qui étaient restés fixés sur elle, se fermèrent un moment, puis se rouvrirent, et elle l'embrassa en la bénissant. Les mêmes yeux la suivirent jusqu'à la porte, et quand la porte fut refermée, un doux sourire brillait encore dans leur regard brillant, comme sur son calme visage. Ils ne se détournèrent plus jamais. Elle mit sa main sur sa poitrine, murmura le nom sacré qu'Henriette avait prononcé, et la vie se retira de sa figure comme une lumière qui passe. Il ne restait plus là que les ruines de cette demeure mortelle qui avait été battue par la pluie et l'orage, rien que ses cheveux noirs qui avaient flotté pendant une nuit d'hiver au gré des vents.